Maintenant, on passe à l'interview de Michel Eudes, un célèbre référent handisport du territoire. C'est parti.
Bienvenue sur Chalut Radio.
Bonjour, Michel Eudes. Tout d'abord, merci d'être venu jusqu'à nous. Vous êtes vice-président du CD Handisport Dieppe. Nous avons plein de questions à vous poser. Pour ceux qui nous écoutent, pouvez-vous nous parler de votre carrière professionnelle et personnelle?
Bien sûr, bonjour à tous. Bonne année.
Bonne année.
Ma carrière professionnelle, c'est une carrière très atypique, puisque je suis en retraite actuellement. J'étais éducateur sportif et AMP, aide médico-psychologique, en centre médico-social. Mais à l'origine, je ne venais pas du tout du handicap, puisque j'étais à la base dessinateur industriel. Et j'ai fini ma carrière comme soignant, on va dire entre guillemets, au niveau, je dirais, de la déficience mentale, maladie psychique et maladie invalidante.
C'est quoi le handisport?
Alors le handisport, c'est tout ce qui concerne, je dirais, les personnes qui sont à mobilité réduite ou qui souffrent de déficience visuelle ou auditive. Contrairement à l'autre fédération qui s'appelle le sport adapté, qui gère, elle, uniquement tous les problèmes de déficience mentale et intellectuelle et autisme et toutes ces maladies-là, quoi. Enfin, maladies, ce ne sont pas des maladies, ce sont des handicaps, mais on va mettre dedans aussi la maladie psychique, par exemple.
Comment est-il apparu?
Le handisport?
Oui.
Alors, le handisport, alors là, j'ai pas assez, il faudra rechercher assez loin l'historique. Par contre, je peux vous raconter comment est arrivé ce mot handisport et handicap, par exemple. Ça, c'est quand on parle de handisport, on parle de handicap. Ce mot va disparaître, puisque maintenant, les personnes ne peuvent plus s'appeler des handisportifs, mais des parasportifs, puisqu'on essaye d'adoucir les mots. Mais le mot handisport, handicap, vient du XVIIe siècle, quoi, si je ne me trompe pas, d'un jeu qui s'appelait Hand in a Cap, le jeu de la main dans le chapeau. Et ça s'est trouvé plus ou moins modifié avec le temps, puisque en fin de compte, on s'est aperçu que le chapeau, peu de gens avaient des chapeaux, ils avaient plutôt des casquettes. Donc, normalement, ça aurait dû s'appeler autrement. On aurait dû remplacer le mot cap par hat. Mais on a fini par cap, puisque c'était quand même un jeu à l'origine qui était pour des personnes, je dirais, de classe moyenne. Ça se faisait dans des pubs, puisque ça vient d'Angleterre. Ça se faisait dans des pubs et les gens venaient échanger des choses. Je n'allais pas dire un cheval contre une charrue, mais échanger des choses. Et ces choses devaient être équitables. Donc, pour que ce soit équitable, il fallait un arbitre. Et c'est cette personne-là qui, elle, évaluait si l'objet échangé contre un autre était équitable. Et si ce n'était pas équitable, la personne qui se sentait lésée, réclamait que l'autre personne mette dans le chapeau quelque chose pour redonner une équivalence. Et le mot handicap est arrivé comme ça, en fin de compte. C'est-à-dire qu'on ajoute ou on enlève quelque chose. Et au fur et à mesure, ce mot-là est arrivé après dans les courses de chevaux, puisqu'on court avec un handicap, c'est-à-dire qu'on rajoute une charge à un cheval pour essayer de le mettre au même niveau que l'autre. Et plus tard, donc c'est arrivé bien après la guerre, et surtout à partir de 75, puisque c'est la loi de 75 qui a remis tout ça un peu dans l'ordre, où le mot handicap est arrivé réellement dans les termes de la vie courante. Et là, à ce moment-là, on essayait de faire en sorte de ne plus léser la personne, je dirais, qui était la plus valide, mais plutôt d'aider la personne qu'on a besoin. Avant, c'était un peu l'inverse, vous voyez, il y avait une différence. On essayait d'alourdir la personne qui était à l'aise pour faciliter l'autre, alors qu'aujourd'hui, dans la philosophie, ça a changé. On essaye d'aider la personne la plus lésée et de laisser l'autre au niveau où elle est, puisque le but, c'est de s'élever ensemble. Donc voilà, on en est arrivé à ça. Et après, bien sûr, ce mot-là est arrivé dans le sport, donc handisport, où on a commencé à faire des compétitions pour les personnes qui étaient lésées, c'est comme ça qu'on les appelait, des personnes lésées. Et après, ça s'est ouvert, je dirais, de plus en plus. Ça a pris de l'essor, surtout après les conflits. puisqu'il y a eu de plus en plus de soldats blessés. Et il fallait à tout prix trouver quelque chose pour, je dirais, pour les sortir, je dirais, de leur quotidien. Et le handisport est apparu tout doucement comme ça.
Merci. Alors, quelles sont vos missions ?
Au niveau du département, au niveau du club ?
Du club.
Alors, au niveau du club, moi, je suis le créateur du sport et handicap sur la région diépoise. Donc, ça va faire déjà depuis une trentaine d'années à peu près. Et tout doucement, j'ai amené dans le fonctionnement des associations une touche de handicap. Alors, je dis bien une touche, parce qu'au départ, il fallait y aller doucement. Et j'ai commencé par la musculation, c'était le judo, le handball, hand ensemble, ça s'appelle comme ça, le hand fauteuil, et aujourd'hui, le rugby fauteuil. Et maintenant, pour ajouter un petit peu à tout ça, puisque comme ça ne suffit pas, on y met aussi du sport santé, puisqu'on parle beaucoup de sport santé actuellement, et sport sur ordonnance. En fin de compte, c'est une continuité. Mais bien sûr, il faut être formé. Et ça, on en reparlera peut-être après.
Merci. Pouvez-vous faire l'état des lieux du handisport dans le secteur de Dieppe ?
Alors justement, dans le secteur diepois, le handisport, il est pauvre. Il demande qu'à être développé. Faut savoir que quand j'ai pris la responsabilité de la vice-présidence sur le secteur diepois, donc il va quand même du Tréport jusqu'à, en gros, Saint-Valery-en-Caux, jusqu'à Tôte, vous voyez, ça fait quand même un grand secteur, nous étions, pour ainsi dire, le seul club. Et le seul club de rugby en plus. Donc, et pour en trouver un autre, il faut aller sur Saint-Lô ou Cherbourg. Vous voyez qu'on est quand même, il y a du travail à faire. Ça se comprend parce que ça demande une logistique très lourde. Il faut du matériel. Les personnes ne sont pas toujours autonomes. Certaines ne conduisent pas. Il faut aller les chercher. Il faut mettre en place un réseau. Ça peut aussi décourager beaucoup d'associations. Il faut des moyens financiers énormes parce que plus l'handicap est lourd, plus les moyens matériels pour la mobilité sont coûteux. Il faut savoir que c'est un milieu qui coûte très très cher. Donc l'état des lieux aujourd'hui, c'est ma mission encore pendant 2 mois, c'est de développer cette notion de handisport dans les clubs. Et pour ça, il faut qu'on soit sur le terrain, il faut qu'on soit visible, il faut qu'on soit entendu. Grâce à vous, écoutez aussi, parce que c'est aussi le lien. Hein, c'est ce qui nous permet aussi de dire, écoutez, voilà, le handicap, c'est une phase, c'est une étape de la vie. On peut progresser, on peut faire plein de choses avec, et on ne s'interdit rien. On ne s'interdit rien, justement.
Des diplômes sont nécessaires pour être éducateur d'handisport ?
Alors, déjà, tant qu'on est bénévole, on ne nous demande pas de diplôme. C'est de la bonne volonté, du cœur, ça suffit, on va dire, comme ça. Dès le moment où on entre dans une certaine forme de professionnalisme, là, il faut des diplômes. Puisque de toute façon, là, on va exiger d'être éducateur sportif à la base. Alors que maintenant, ça peut être un BPGEPS, ça peut être un CPGEPS, ça peut être un CQP. Enfin, tout ça, c'est des mots. Un CPGEPS, c'est les certificats professionnels. Les CQP, c'est les certificats de qualification. C'est des diplômes qui ont été remplacés, qui remplaçaient les BAPAT, les BAFA et tout ça. Mais alors, il faut une carte professionnelle. Dès le moment où vous avez une carte professionnelle, et après, il faut faire une spécialité. Et vous pouvez aller encore beaucoup plus loin, c'est-à-dire d'aller jusqu'aux licences STAPS APA, APAS, pour réellement être dans ce domaine-là. Mais ça ne vaudra pas quand même l'expérience du terrain et d'être au quotidien avec des personnes qui souffrent. Parce que là vous apprenez beaucoup plus vite que je dirais qu'en théorie, quoi. Mais il faut, oui, pour s'occuper des personnes, oui, il faut des diplômes, et il faut des spécificités. Handisport a sa spécificité, le sport adapté a sa spécificité. Mais en réalité, quand vous avez les bases solides, déjà c'est suffisant.
Alors, lors de votre enfance, quelle a été votre orientation scolaire ?
Alors, traditionnel, hein, j'ai un parcours scolaire très banal, en passant par l'émulation diepoise, parce que je n'ai pas fait de lycée, j'étais à l'émulation diepoise en dessin industriel. Et il fallait savoir qu'à l'époque, déjà, le métier, il en avait pris un sacré coup. Le dessinateur n'existait pratiquement plus. Voilà. Donc, il a fallu faire plein d'autres métiers. Et là, bah, tous les métiers qui sont passés à portée de main, je les ai faits. J'ai fait plein de petits boulots, en passant par des tas de choses. J'ai fait photograveur en imprimerie aussi. Ça, c'était magnifique. Hein. Ça a duré une quinzaine d'années. Et après, plus rien. Puisque après, l'informatique a remplacé notre beau travail artisanal. Les formations n'ont pas suivi. Le métier a disparu avec l'informatique et il a bien fallu se recycler. Se recycler comment ? Bah, on remet tout à plat. On se remet au bout d'une table. On fait des cours par le CNED, par exemple. C'est ce que j'ai fait. Hein, j'ai fait un brevet d'État par le biais du CNED, avec le tronc commun et ainsi de suite. Et pendant ce temps-là, je faisais des petits boulots. Je travaillais un petit peu partout. Et un jour, voilà, une porte s'est ouverte. C'était un établissement médico-social qui était sur Sainte-Marguerite-sur-Mer, qui s'appelait la Fondation Albert Jean à l'époque. Et ils recrutaient une personne pour, je dirais, entre guillemets, je vais être un petit peu trivial, mais pour promener les résidents. C'est un peu ça. Hein. Et la notion de sport n'était pas du tout... on mettait sport, entre guillemets, mais la notion de sport n'était pas du tout d'actualité. Et je l'ai pris, ce boulot. J'ai continué de me former au sein de cet établissement. C'est un établissement public, médico-social. Et à partir de là, bah, j'ai repassé tous mes diplômes et j'ai tout refait à zéro. C'est-à-dire, j'ai terminé mon diplôme d'éducateur sportif. J'ai fait celui-là de moniteur-éducateur. Dans la foulée, j'enchaînais avec le diplôme d'aide médico-psychologique. Et puis après, bah, j'ai mis plein de petites spécialités sportives derrière. Et là, le sport est devenu réellement ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire une prise en compte des besoins des personnes en situation de handicap. Et on a mis derrière le projet. Et bah, je peux dire que là, c'est une réussite. Donc, vous voyez, on part de pas grand-chose au départ. Un bilan de terrain, un constat. Et on met en place des activités.
D'accord. Pour vous, est-ce que c'est important de se mettre à la place d'une personne handicapée pour le comprendre ?
Alors, ça, c'est une bonne question. On ne peut pas se mettre à la place des autres. C'est impossible. On peut les comprendre, mais on ne peut pas se mettre à leur place. Pourquoi ? Parce que se mettre à la place d'eux, c'est courant. Aujourd'hui, on dit, voilà, on est vraiment dans la... Dans l'aide à la personne, on essaye d'être bienveillant. Oui, tout ça, c'est vrai. Mais à situation égale, deux personnes vont avoir un comportement complètement différent et en fonction de leur vécu, tout simplement, et de leur souffrance. Et quand on dit « je me mets à ta place », en fin de compte, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Par contre, on peut comprendre la difficulté, on peut comprendre la différence, on peut essayer de se mettre à la portée de la personne, mais c'est un mot que moi j'utilise plus jamais maintenant. Je ne peux pas me mettre à la place d'une autre, puisque de toute façon je vais peut-être pas avoir du tout le même comportement qu'elle. Mon éducation a fait que je vais peut-être pas avoir les mêmes éléments de réflexion que cette personne, et puis les moyens financiers aussi, parce que ça faut en parler aussi, hein. Donc pour comprendre, le mot est là. Il faut comprendre l'autre, mais ne jamais, à aucun moment, chercher à se mettre à sa place. Parce que sinon, vous ne l'aiderez pas de toute façon.
Merci. Nous avons aussi vu que pendant les séances d'handisport, vous étiez en fauteuil roulant. Pourquoi ?
Parce que déjà, il faut se mettre à la même portée que l'autre. Il faut se mettre dans sa situation de handicap. Déjà, je vais peut-être aussi vous expliquer pourquoi maintenant on ne dit plus une personne handicapée, mais une personne en situation de handicap. Avant, on disait à quelqu'un « tu es handicapé ». Ça veut dire que voilà, le diagnostic il est tombé, t'es handicapé, c'est terminé. Maintenant, on va adoucir ça. On l'adoucit aussi parce que c'est arrivé avec la loi de 2000, enfin, situation de handicap, c'est la loi de 2005, c'est arrivé. on fige plus une situation. Parce qu'on peut être en situation de handicap provisoirement. Vous avez un accident, vous êtes en fauteuil roulant, le temps que ça guérisse, vous êtes en situation de handicap. Mais c'est une situation qui va évoluer vers le plus. Par contre, vous pouvez être aussi dans une situation où ça va évoluer vers le moins, c'est-à-dire de plus en plus handicapé. Donc, on est dans une situation. Voilà pourquoi on utilise ce terme-là maintenant, parce que ça ne fiche pas la personne. En fin de compte, ça ne la cloue pas dans son fauteuil, quoi, entre guillemets. Ça peut évoluer. La médecine fait des progrès. On aimerait que ça aille plus vite, mais elle fait des progrès. Et on compte sur ces progrès-là pour que cette situation change. Bon, malheureusement, ça ne change pas pour tout le monde. Mais ça se produit quand même.
Merci. Des améliorations sont possibles sur les fauteuils roulants?
Alors justement, j'y travaille, puisque j'ai passé un partenariat avec l'Émulation Diepoise, qui est un lycée professionnel que certains connaissent. Et justement, je suis arrivé avec mes fauteuils. Ce sont des fauteuils d'occasion que j'ai récupérés, des fauteuils exprès pour ça, mais dans un mauvais état, avec de la casse. Et pour faire réparer des fauteuils, c'est très compliqué. Surtout, je veux dire, en France, c'est très compliqué, puisque déjà, les fauteuils qu'on a, ils viennent de Chine pour la plupart. Donc, quand ça casse, au niveau du service après-vente, hein, je vous raconte pas comment c'est compliqué. Donc, j'ai trouvé un service de proximité qui était de monter un projet avec un lycée technique, de mettre en relation mon club, enfin mon association et le lycée, et leur apporter un matériel qu'ils n'avaient jamais vu, qui pour certains ne se serait peut-être jamais posé la question là-dessus. Et dire, voilà, ça c'est cassé, ça faut le refaire, il y a des pièces à réusiner complètement. Là, je dois y retourner parce que j'ai d'autres choses, d'autres casses à réparer et c'est pas toujours facile. Et ce partenariat, pour moi, c'est quelque chose d'inespéré parce que au moins, c'est utile pour nous, ça nous coûte pas cher, ce qui est important. Et en même temps, c'est formateur pour les élèves. Parce qu'en plus de réparer un fauteuil roulant, ils les essayent et après on fait une petite rencontre de rugby-fauteuil au sein de l'établissement. Comme ça, ils se rendent compte en même temps pourquoi ça casse, les difficultés des personnes en fauteuil et puis aussi le plaisir de jouer en fauteuil roulant. Parce que c'est aussi avant tout un plaisir. Il faut le prendre comme ça, c'est pas un drame, au contraire.
Alors, nous avons vu que le sport pouvait s'adapter à différents handicaps, mais est-ce que ça peut changer les règles du sport ou du moins nécessiter des adaptations?
De toute façon, les règles du sport changent puisque le handisport a ses propres règles, qui sont compliquées d'ailleurs. Et les adaptations, il y en a eu et il y en aura de plus en plus, ne serait-ce qu'au niveau, je veux dire, de tout ce qui est prothèse. Puisque à un moment donné, si vous avez pu suivre un peu l'information, il était question aussi de remettre en question le fait en athlétisme, par exemple, de mettre des personnes qui ont des palettes. Par rapport à des valides, certains valides disaient « Oui, mais avec la palette, la personne, en fin de compte, c'est nous qui sommes handicapés et non plus la personne avec la palette parce que la palette donne de l'élan, donnera de l'impulsion et ainsi de suite, hein, ce qui est complètement faux. Parce que déjà, pour courir avec une palette, ça demande des années et des années et déjà, il faut l'accepter. Et tout le monde, il faut que le corps accepte la prothèse. Parce que mettre une prothèse sur un corps qui a été mutilé, c'est très long. Il faut que le corps se prête à tout ça. Ce n'est pas facile. Ça demande des années d'adaptation.
Alors, quelles sont les règles du rugby-fauteuil?
Alors, les règles du rugby-fauteuil, c'est pas le rugby-fauteuil que vous voyez à la télévision, ce qui s'appelle le rugby-quad, qui est un rugby qui se joue à 4, 4 contre 4, avec un ballon rond sur un terrain de basket. Et on peut passer les ballons en avant et on a le droit de charger la personne qui est devant, même si elle n'a pas le ballon. Ça, c'est le rugby quad qui est reconnu par la fédération A15, dans laquelle je suis licencié. Sauf que nous, on ne peut pas faire ça. Donc, on a nos fauteuils, on a notre ballon de rugby et on fait du rugby, ce qu'on appelle du touch rugby. C'est du rugby à 13. Ce sont les règles du rugby à 13 avec un ballon de rugby et on passe le ballon vers l'arrière, comme au rugby normal. On n'a pas le droit de charger quelqu'un qui n'a pas le ballon, puisque sinon ça ressemble trop au foot américain ou au hockey, puisque à l'origine c'était quand même des joueurs de foot américains et des hockeyeurs, enfin surtout canadiens, qui ont monté ce sport, qui n'est pas vieux, je crois, qui a été présenté en 96. Hein. Et aujourd'hui, on est un petit peu en opposition par rapport à ça, parce que beaucoup pensent que ce rugby-là, c'est celui qui existe. Et en réalité, non. Il existe un rugby beaucoup plus soft, qui est le rugby à 13, avec les règles. Il n'y a pas de plaquage, vous imaginez bien qu'en fauteuil, on ne plaque pas. Par contre, on touche les épaules, ou sinon, on met des flags aux épaules. On a des maillots avec des scratchs aux épaules. On met un flag dessus, une bandelette avec un scratch. Et quand on tire la bandelette, on la laisse tomber, la personne, elle est plaquée. Donc, elle s'arrête et elle passe le ballon à son collègue, et ainsi de suite, comme ça. Et on traverse le terrain. Théoriquement, on n'est pas censé faire plus de 5 arrachages, parce qu'au bout de 5, le ballon, il passe à l'adversaire. Voilà. Mais on fait les mêmes règles de jeu. On botte à la main, c'est-à-dire qu'on a, au lieu de taper au pied, on botte à la main, on fait des transformations à la main sur un tee. Alors le tee, c'est un cône de travaux, on met le ballon dessus et on tape dedans au point. En fin de compte, les points remplacent les pieds. C'est à peu près les mêmes règles. Par contre, ce n'est pas violent. C'est adapté à tout le monde. C'est mixte. C'est homme et femme. D'ailleurs, la personne qui va me remplacer est une femme qui a une fibromyalgie, qui a 21 ans et qui va prendre la section en main, hein, puisque je vais lui laisser. Enfin, je lui laisse pas comme ça, hein. Je suis derrière, mais au moins, voilà, il faut des jeunes maintenant derrière. Hein. Sinon, les sections vont s'arrêter, après, c'est pas marrant. Et disons que c'est adapté à tous les handicaps, puisque moi, dans ma section, j'ai des personnes qui sont à mobilité réduite, j'ai des personnes qui ont des déficiences mentales et des maladies psychiques. Bon, je pourrais vous expliquer la différence entre tout ça, mais bon, peut-être que c'est... Je sais pas. C'est vous qui voyez. C'est vous. Non, donc la déficience mentale, c'est ce qui concerne, je dirais, tout ce qui, la trisomie, l'autisme et tout ça, c'est dans la déficience. Et je dirais les troubles envahissants du développement et ainsi de suite. Hein, les gens psychotiques, c'est la déficience. On est dans la déficience mentale. Et la déficience mentale, on est atteint de déficience mentale. C'est souvent autour de la naissance, on est avec. Alors que la maladie psychique se déclare souvent, souvent, pas tout le temps, je ne suis pas médecin, après la puberté, j'en citerai qu'une, la schizophrénie par exemple, y a la bipolarité, y en a encore quelques-unes, ce sont des maladies psychiques, c'est-à-dire que la personne peut avoir un parcours scolaire normal, et après la puberté, c'est là que ça ne va plus. Et là, bon, bien sûr, on a le doigt dans l'engrenage et la maladie, ce qu'on appelle une maladie psychique, ce qu'on appelait avant la maladie mentale, est déclarée et malheureusement, ça ne se soigne pas.
D'accord. Quel est votre meilleur souvenir dans le handisport ?
Oh, les meilleurs, j'en ai plein. J'en ai plein, mais... Je dirais que le meilleur souvenir que j'ai, enfin j'en ai au moins deux, sûr, c'est quand j'ai pu mettre en place le sport pour les personnes en situation de handicap sur la région diepoise, ce qui n'existait pas avant. Hein. Et ça a été un succès, puisqu'aujourd'hui, je connais pas un club qui essaye pas de se lancer dedans. Et puis, le deuxième, on va dire en gros, comme ça, c'est de pouvoir... avoir, je dirais, plein de handicaps différents sur un même sport et en même temps. Donc, on est réellement... Et avec des jeunes de quartier, j'oublie pas, avec les jeunes de quartier qui sont venus se greffer volontairement, sans que j'aille les chercher, à ce public-là pour venir essayer. Et là, on peut dire que là, des fois, la différence s'efface. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment mes deux... Ben, j'espère qu'il y en a encore plein d'autres. Hein.
J'espère.
Moi aussi.
Serait-il possible de nous parler de votre association ?
Oui, alors cette association, c'est le Duc Rugby, le Dieppe Universitaire Club Rugby. Ce club, je l'ai côtoyé plus ou moins de loin pendant pas mal d'années, puisque j'organisais la journée, enfin, j'organise toujours la journée des sports et handicap, qui s'appelle maintenant Journée Sport et de la Convivialité à Dieppe. Ça va faire 22 ans cette année. Et ça se passe sur le, ça se passait sur l'ancien terrain de rugby qui est maintenant coupé par la route qui rejoint Pourville. Et j'accueillais sur ce terrain-là à peu près 25 établissements, ce qui représentait entre 480 et 500 personnes en situation de handicap. Et c'était le club de rugby qui me prêtait les locaux. Donc déjà, et je ne faisais pas partie du club de rugby, hein, mais il me les prêtait, puisque fallait que je m'installe quelque part et il me fallait du matériel. Et surtout de la proximité avec, je dirais, des vestiaires, des toilettes, enfin, ouais, toute la logistique qu'il faut pour ça. Et un jour, mon fils s'est mis à faire du rugby. J'avais essayé tous les sports. Aucun sport lui convenait. C'est lui qui a choisi le rugby. C'est le seul sport sur lequel je ne serais jamais allé, moi. J'aimais pas. Bon. Et comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Et puis un jour, il a arrêté. Moi, j'ai continué. J'ai continué de m'occuper des jeunes et ainsi de suite. Donc, j'ai passé aussi des diplômes dans le cadre du rugby. Le dernier que j'ai passé là, il date de l'année dernière, puisqu'il fallait avoir le diplôme de rugby à 5, sport santé sur ordonnance. Donc, je suis allé à Marcoussis le passé. Comme quoi, même en retraite, c'est pas impossible. Et de manière à pouvoir s'installer un peu mieux dans ce sport, qui est quand même avec des règles assez, des fois assez complexes. Même moi, je me mélange encore un peu les bigoudis de temps en temps. Mais le fait d'être sur du rugby fauteuil, par exemple, ça me permet de me distancer un petit peu. C'est-à-dire que la règle est un petit peu différente et un peu plus souple. Donc, je suis bien content. Mais j'en suis arrivé comme ça dans ce club, un petit peu par la porte de secours. Et arrivé à la retraite, le président, qui est un collègue, me dit « Est-ce que tu peux intégrer le club ?» Parce qu'on aimerait bien monter une section, mais digne de ce nom, sport et handicap. J'ai fait « Ouais, de toute façon, je ne suis plus un prêt. » Et puis aujourd'hui, nous y voilà, quoi. Et le but n'était pas du tout de monter une section rugby fauteuil. Mais comme je mettais tout le temps du fauteuil roulant dans toutes mes activités, ça aurait été dommage de ne pas le faire. Et le comité départemental m'a aidé. C'est pour ça que j'ai intégré le comité départemental. Et ils m'ont prêté des fauteuils. Bon, j'ai pu en acquérir quand même 6 de ceux qui m'avaient prêté. On a commencé, on était 3, juste avant le Covid. Et là, on vient de faire le recensement, on est 15. Mais réellement, hein, là, on ne fait pas joujou avec... on a tous quelque chose. C'est-à-dire que même, il y a du handicap invisible. Alors, beaucoup de gens disent qu'ils sont en fauteuil, mais en fin de compte, ils n'ont rien. Si, parce que j'ai des personnes qui sont... Il y en a une qui est clouée en fauteuil, qui a une sclérose en plaques, mais en fauteuil. Il y en a d'autres qui l'ont, mais qui sont avec des béquilles, mais ils savent très très bien qu'un jour, c'est le fauteuil qui les attend. La jeune qui est avec moi est atteinte de fibromyalgie. Elle se démène pour faire reconnaître cette pathologie. Et elle fait du fauteuil. C'est une femme, même certains garçons ne l'arrêtent pas sur le terrain, quoi. Elle est en fauteuil, elle s'éclate. Alors qu'elle souffre pratiquement au quotidien de douleurs. J'ai d'autres personnes qui ont des neuropathies. J'ai un jeune qui est un travailleur des ZAD, qui a une déficience mentale. J'ai une jeune femme qui vient, qui elle est atteinte de schizophrénie. Et moi, je suis cassé de partout. Voilà, le sport m'a pas fait que des cadeaux non plus. Et je suis bien content de trouver, je dirais, des fauteuils pour pouvoir continuer de faire du sport. Et là, le plus vieux que j'ai, là actuellement, il a un mois d'existence. Il nous a rejoint il y a un mois. Il a 78 ans. Et il a eu un tonus d'enfer. Il a une pêche. Je ne sais pas où il trouve cette énergie-là. Moi, je veux. Et pourtant, il marche avec des béquilles. Et il ne faudrait pas qu'il tombe, parce que s'il tombe, il ne se relève pas. Et j'ai plein de personnes comme ça. C'est un panel, je dirais, de difficultés qui s'ajoutent. Mais une fois en fauteuil, la difficulté, on ne la voit plus. C'est pour ça qu'on se met tous dans la même situation.
Les JO sont en moins de 2 ans. Avez-vous un message à faire passer ?
Ça, c'est une bonne question aussi, ça. Déjà, on est très, très pris par les JO. Il y a énormément de pubs de fête sur les JO. Beaucoup, 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 beaucoup. Moi, ce que j'aimerais voir dans les JO, c'est que on ne fasse plus passer le parasport après, puisque les gens l'ont oublié, ils ont vu le principal, ils ont vu les jeux de haut niveau, ils ont vu les valides, ils ont vu les... Je dirais, des fois, c'est même, presque des professionnels. Hein. Et quand on arrive au parasport, bah, c'est bizarre, l'audience, elle est beaucoup moindre. On passe après. J'aimerais bien que peut-être passer avant. Bon, est-ce que ce serait bien ? J'en sais rien. Mais pourquoi pas en même temps ? Pourquoi pas en même temps, puisqu'on est dans l'inclusion, on parle, c'est un grand mot aujourd'hui, on parle d'inclusion, d'intégration, de mixité, on efface les différences, bah pourquoi pas les effacer en même temps, le même jour ? Après, c'est à eux de faire le planning, hein, c'est pas à moi, mais disons que je pense que ce serait mieux de pouvoir mixer une journée valide, non valide, plutôt que de faire tout valide et non valide. Vous savez, hein, c'est d'expérience et je suis très bavard, mais on passe souvent dans le monde du handicap, on passe souvent après. Quand il y a des mesures à prendre, on les prend après. Quand on fait des réunions, la parole, on la prend souvent après. Quand il faut mettre tout le monde dans une salle, moi je l'ai vu, hein, c'est du vécu, si vous avez des personnes en fauteuil, tous les valides se mettent devant. Et ceux qui sont en fauteuil, souvent derrière. Moi, je fais l'inverse. Je les mets devant. Parce que, on ne va pas les cacher. Et puis, quelqu'un en fauteuil voit moins bien que quelqu'un qui est debout. Donc, par principe, c'est une question, je dirais, de hauteur de port de tête. Hein. Je l'ai mesuré dans le cadre d'un sport comme le rugby, où quand vous amenez quelqu'un en fauteuil et que le club n'a pas l'habitude d'accueillir quelqu'un en fauteuil, les gars ont l'habitude de se regarder debout, droit dans les yeux, puis ils oublient que à 30 ou 40 centimètres en dessous d'eux, il y a une personne en fauteuil qui, elle, est là aussi pour échanger, mais des fois, ils ne la voient pas. C'est des fois de la maladresse, c'est un manque d'habitude. Et moi, là, aujourd'hui, je suis là un peu pour chambouler tout ça. Donc, faire en sorte que les yeux se baissent, qu'on regarde un peu plus bas et qu'on voit la difficulté sans pour autant se mettre à la place de l'autre.
Quel Français faudrait-il suivre à ces JO et dans quel sport pouvons-nous faire des médailles ?
En général, tous les sports peuvent faire des médailles dans les JO chez nous, hein, puisqu'on a des sportifs quand même de très bon niveau. On a Quincan, là d'ailleurs, qui est en train de partir en flèche. Après, je ne les connais pas tous personnellement. J'ai mon collègue du CDH. Pour parler de lui, Florian Mérien, par exemple, au tennis de table, qui intervient beaucoup, il a dû intervenir dans le secteur d'ailleurs. Des fois, je suis avec lui. Lui, en général, c'est un gros potentiel de médaille. Hein. On a une jeune femme aussi sur Grand Queville, là, qui, je ne me rappelle plus son nom d'ailleurs, qui est aussi championne olympique en tennis de table. Et qui, elle, a de gros espoirs de médaille aussi. Mais en général, dans toutes les disciplines handisport, on n'est plutôt pas trop mal.
Selon vous, quel sport est le plus impressionnant à regarder ?
Tout est impressionnant à regarder. Enfin, je ne vais pas faire l'apologie de mon sport, justement, je ne vais pas le faire. Mais je vois par exemple la natation, quand les personnes n'ont plus le bras, ou complètement déséquilibré et qu'il traverse le bassin. Quand je vois ça, moi, je vois de la souffrance. Moi, je souffre pour eux. Alors qu'en fin de compte, c'est pas du tout ce sentiment-là qu'il faut avoir. Du respect, chapeau bas. Moi, c'est un des sports. J'ai bien un des sports, mais celui-ci, pour moi, me touche plus. Pourquoi ? Pour deux raisons, parce que déjà, la personne, elle est dénudée. Hein. Là, on voit le handicap, on le touche du doigt. Donc déjà, faut accepter cette image-là. Mais vous imaginez aussi la personne qui, elle, est sur le podium. Elle a le regard de tout le monde autour d'elle. Pardon. Et ça doit être... bien sûr, elle a passé ce cap-là. Mais il faut pouvoir le faire quand même. Il faut pouvoir le faire. Et moi, c'est cette image-là que je retiens. Hein. Bon, après, il y a tous les autres sports. Il y a l'athlétisme, enfin, bref, tout. Mais les gens sont vêtus. Et des fois, le vêtement cache un peu. La natation, non. C'est le handicap à l'état, je dirais, brut et naturel. Et ben, faut faire avec le regard des autres. Ça, c'est le quotidien de toutes les personnes handicapées. Faut faire avec le regard des autres. Et là, en plus, on est exposé. Et on nous demande encore de faire un record. C'est souvent un record contre soi-même. Hein. Souvent. Hein.
Alors, petite dernière question. Votre musique du moment ?
Votre ?
Musique du moment ?
J'en ai pas particulièrement. Moi, je suis plutôt en musique. Ça va vous faire bizarre, mais je suis plutôt AC/DC, moi. Pourquoi ? Pourquoi ? Bah, tout simplement, c'était une musique que je mets souvent, parce que j'ai, dans mon établissement où j'étais, j'ai monté une petite équipe de foot adaptée. Elle existe toujours, puisqu'ils font des championnats maintenant, et c'est reconnu par la Ligue de Normandie de football. Et je ne faisais aucune séance de football sans mon enceinte avec cette musique-là. C'est-à-dire que je mettais en place mon match, et pour motiver tout le monde, je balançais du hard rock. Et l'école qui était à côté, qui est le collège de Bacqueville-en-Caux, qui mettait plutôt des choses un peu classiques, quoi. Un petit peu. Quand ils ont entendu ça, ils se sont dit, mais c'est quoi ce truc ? Ils sont venus voir. Et au bout de 6 mois, ils faisaient les matchs avec nous. Et avec la même musique, et les élèves et les résidents de l'établissement s'éclataient, mais alors dans tous les sens. Hein. Et voilà, je suis plutôt, et ça motive. Et quand on pense un petit peu, des fois, des choses un peu négatives, le fait de se mettre ça dans la tête, ça fait du bruit. On pense à autre chose.
Bon, bah, merci d'être venu. Je vous dois un grand respect pour
de
tout
rien,
ce que
merci
vous,
à vous,
ce que vous
surtout.
Faites.
Parce que merci. Ça me permet d'éclairer un petit peu notre passion, parce que c'est avant tout une passion. Hein.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
Il est 11h55, on est toujours sur Chalut la radio, 107.5. Et un grand merci à Michel Eudes pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons écouter ensemble la musique que nous a conseillé Johan Biré.
Ah oui, oui, Johan Biré, un athlète français de handisport. Lors de son interview au micro de Chalut la radio hier sur 107.5. Écoutons donc Sixième Sens de Grand Cœur Malade.
La nuit est belle, l'air est chaud et les étoiles nous matent. Pendant qu'on kiffe et qu'on apprécie nos plus belles vacances. La vie est calme, il fait beau, il est 2h du mat. On est quelques sourires à partager notre insouciance. C'est ce moment-là hors du temps que la réalité a choisi. Pour montrer qu'elle décide et que si elle veut, elle nous malmène. Elle a injecté dans nos joies comme une anesthésie. Souviens-toi de ces sourires, ce sera plus jamais les mêmes. Le temps s'est accéléré d'un coup et c'est tout mon futur qui bascule. Les envies, les projets, les souvenirs, dans ma tête y a trop de pensées qui se bousculent. Le choc n'a duré qu'une seconde, mais ces ondes ne laissent personne indifférent. Votre fils ne marchera plus, voilà ce qu'ils ont dit à mes parents. Alors j'ai découvert de l'intérieur un monde parallèle. Un monde où les gens te regardent avec gêne ou avec compassion. Un monde où être autonome devient un objectif irréel. Un monde qui existait sans que j'y fasse vraiment attention. Ce monde-là vit à son propre rythme et n'a pas les mêmes préoccupations. Les soucis ont une autre échelle et un moment banal peut être une très bonne occupation. Ce monde respire le même air mais pas tout le temps avec la même facilité. Il porte un nom qui fait peur ou qui dérange. Les handicapés. On met du temps à accepter ce mot, c'est lui qui finit par s'imposer. La langue française a choisi ce terme, moi j'ai rien d'autre à proposer. Rappelle-toi juste que c'est pas une insulte, on avance tous sur le même chemin. Et tout le monde crie bien fort qu'un handicapé est d'abord un être humain. Alors pourquoi tant d'embarras face à un mec en fauteuil roulant ou face à une aveugle? Vas-y, tu peux leur parler normalement. C'est pas contagieux pourtant avant de refaire mes premiers pas. Certains savent comme moi qu'il y a des regards qu'on n'oublie pas. C'est peut-être un monde fait de décence, de silence, de résistance. Un équilibre fragile, un oiseau dans l'orage. Une frontière étroite entre souffrance et espérance. Ouvre un peu les yeux, c'est surtout un monde de courage. Quand la faiblesse physique devient une force mentale, quand c'est le plus vulnérable qui sait où, quand, pourquoi et comment, quand l'envie de sourire redevient un instinct vital, quand on comprend que l'énergie ne se lie pas seulement dans le mouvement. Parfois, la vie nous teste et met à l'épreuve notre capacité d'adaptation. Les cinq sens des handicapés sont touchés, mais c'est un sixième qui les délivre. Bien au-delà de la volonté, plus fort que tout, sans restriction, ce sixième sens qui apparaît, c'est simplement l'envie de vivre.